Bien, merci pour votre fidélité. Vous vous demandiez quelle serait la fin de l'histoire, comme dans les films de Hitchcock, puisque nous avons un maître britannique ici. Donc nous allons connaître la fin ce soir, après le suspense des dernières séances. Et comme je l'ai proposé hier, on pourra peut-être prendre un petit moment, pour ceux qui le souhaitent, hein, les autres, vous pouvez partir, pour une discussion qui peut porter sur la séance d'aujourd'hui, mais plus généralement, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour échanger, sur le cycle des quatre conférences que le professeur Deakin a bien voulu donner ici. Et je vous rappellerai à la fin, pour ceux que ça intéresse, le calendrier et les intitulés des interventions du professeur Stewart de l'Université de Colombie-Britannique. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller en Colombie-Britannique, mais c'est une sorte de Suisse sur la côte ouest canadienne qui est à demi-chinoise maintenant. J'ai enseigné à Vancouver, c'est plus de 60% des étudiants sont de riches familles chinoises. Donc, le professeur Stewart pourra vous parler de Vancouver mieux que je ne saurais le faire. Et pour l'instant, en tout cas, nous n'allons pas parler du Brexit, mais de droit et technologie. Donc, c'est un petit peu dans la suite de ce que nous avons évoqué ce matin à propos des robots et des algorithmes.
Les robots, professeur, je ne sais pas. Merci beaucoup, Alain, et bon après-midi à tous. Oui, je vais parler sur le droit et la technologie. Et je vais discuter, bien sûr, tous ces défis pour le droit maintenant. On accepte que dans le droit du travail et dans le droit en général, il faut affronter des défis posés par une nouvelle vague de changements technologiques. Et je pense que la réponse du droit dépendra en partie de la façon dont la relation entre le droit et la technologie est comprise et entendue. Cette relation, on peut le considérer comme une relation unilinéaire avec le droit répondant aux changements technologiques. Habituellement, tardivement, c'est la vue standard dans un sens. Il y a la technologie et après ça, le droit. Mais on peut considérer cette relation comme une relation d'interaction, de l'interaction cyclique entre le droit et la technologie, la coévolution. Et selon ce point de vue, la technologie n'émerge pas ou ne fonctionne pas dans un vide sociétal ou légal. La technologie est socialement intégrée et juridiquement médiatisée. Et le système juridique influe sur la trajectoire du changement technologique, bien que souvent indirectement et avec un effet retardé, mais il y a des effets. Bien que chaque vague d'avance technologique soit distincte de ses prédécesseurs, mais nous pouvons tirer des enseignements des phases historiques précédentes du cycle de la technologie et le droit. Et donc, cette notion de la coévolution, ça signifie, bien sûr, la théorie que j'ai déjà décrite, des théories des systèmes sociaux. Ce sont des sous-systèmes sociaux, le droit et la technologie, autonomes, fonctionnant pour la plupart indépendamment les uns des autres, sur la base de leur propre autoréférence et l'autoréproduction. Chaque sous-système, néanmoins, forme l'environnement de l'autre et influe ainsi sur les processus de sélection. Au fil du temps, des alignements entre les deux systèmes peuvent se produire, pas un ajustement précis, mais il y a un ajustement, peut-être avec des délais. Nous devrions donc nous attendre à ce que le droit traîne derrière la technologie à des moments d'innovation très rapides, mais aussi comprendre que le droit fait plus que simplement réagir tardivement aux changements technologiques. Donc, l'évolution de la technologie est façonnée par son environnement juridique. Le système juridique facilite le changement technologique grâce au soutien qu'il apporte à l'innovation, par exemple, évidemment, par le droit de la propriété intellectuelle, les entreprises à travers lesquelles des évolutions technologiques sont organisées et livrées sur le marché, bien sûr, reposent sur les fondations fournies par le droit commercial. Et le droit du travail aussi catalyse ou stimule des innovations par discipliner les entreprises à réduire ses coûts, par les stratégies d'investissement dans les actions de l'entreprise et dans la formation des salariés. Et le droit diffuse et absorbe également les risques liés au changement technologique. C'est un rôle bien établi historiquement pour le droit du travail et pour le droit de la sécurité sociale. Et si nous pensons à la technologie comme un système social, nous pouvons le comprendre comme un processus complexe et émergent avec sa propre logique opérationnelle interne qui, en même temps, est structurellement couplée à d'autres systèmes sociaux dans l'environnement matériel et social. Et en commun avec ces autres systèmes sociaux, la technologie est principalement fonctionnelle en ce qui concerne l'assurance de sa propre autoréproduction. Et dans son mode d'opération, la technologie n'est pas conçue et n'a pas évolué pour être fonctionnelle en ce qui concerne les autres systèmes. Il peut cependant être relié à eux par différents modes de couplage structurel. Dans quel sens exactement est-ce qu'on peut dire que la technologie reflète son environnement? Bien, les technologies du milieu du XXe siècle, par exemple, les percées médicales telles que la pénicilline, étaient, dans ce sens, je pense, des technologies démocratiques et égalitaires, dans le sens de répondre aux besoins des États-nations pour la mobilisation massive de leur population dans les conditions de guerre. Et après la guerre, après 1945, pour la reconstruction d'après-guerre sur la base de modèles de citoyenneté sociale. La science sous-jacente à la pénicilline était connue pendant plus d'une décennie avant que des efforts systématiques aient été faits à partir de la fin des années 30, lorsque la guerre était imminente, pour permettre sa production à grande échelle. Et après la guerre, l'utilisation des antibiotiques était essentielle à l'amélioration de la santé publique organisée en Grande-Bretagne comme ailleurs par un État-providence en expansion. Donc, ce n'est pas un accident qu'il y a eu relativement peu d'investissements depuis les années 80 dans les antibiotiques qui sont nécessaires pour remplacer la pénicilline. Ces investissements dans les technologies médicales sont biaisés maintenant pour répondre aux besoins des plus fournés tout en maximisant les possibilités d'extraction de la richesse des actionnaires. Les innovations technologiques d'aujourd'hui, bien que souvent impressionnantes dans la façon dont ils intègrent les connaissances scientifiques dans de nouveaux designs et applications, ces innovations d'aujourd'hui, comme le blockchain, le bitcoin, répondent de plus en plus aux demandes des riches. Ces technologies affaiblissent également la capacité de l'État à fournir à tous les citoyens les moyens de la sécurité économique et de la subsistance. Donc, le blockchain, dans ses diverses manifestations, y compris le bitcoin et des autres crypto-monnaies, fournit une étude de cas exemplaire, je pense. La blockchain tient la promesse de contrat d'auto-exécution en apparence rendant le système juridique redondant, ce plus, de la même manière que Bitcoin élimine apparemment le besoin de devises soutenues par l'État. Mais la suggestion d'avoir supprimé la nécessité pour le droit et pour l'État plus généralement est cependant illusoire parce que l'application de la technologie sous-jacente à la blockchain dépend de l'appareil de droit de la propriété intellectuelle, en particulier le recours à des accords de non-divulgation qui doivent, en dernière analyse, être juridiquement contraignants si elles sont effectives. Et c'est le cas même avec le Bitcoin inventé par la personne anonyme Satoshi Nakamoto. Ainsi, le pouvoir monopolistique de l'État de faire respecter les contrats et de défendre les droits de propriété contre l'expropriation unilatérale est encore nécessaire et toujours nécessaire, même pour la blockchain. Les partisans de la blockchain se disputent efficacement l'utilisation sélective du pouvoir étatique pour défendre une nouvelle technologie du contrôle à distance. Mais pour comprendre comment on peut réglementer le Bitcoin, l'idée de la nature systémique de la technologie, encore une fois, peut nous aider. Du point de vue systémique, une crypto-monnaie comme le Bitcoin compromet la capacité du système juridique à traiter des informations sur l'environnement extérieur en utilisant son code interne, légal et illégal. Le Bitcoin peut être utile ou fonctionnel pour les utilisateurs qui veulent atteindre l'anonymat pour leurs transactions, mais cela peut le rendre très dysfonctionnel pour le système juridique, bien sûr, car les transactions qui en résultent ne peuvent pas être facilement retracées, rendant ainsi difficile l'application des lois civiles et pénales pertinentes. Et de la même manière, Bitcoin peut avoir divers effets sur le système économique. Il fournit un nouveau mode de paiement qui peut être compatible avec la logique opérationnelle, paiement, non-paiement, identifiée par Lumen, des aspects du commerce, mais qui compromet également le fonctionnement des systèmes fiscaux dans la mesure où les transactions utilisant le Bitcoin ne peuvent pas être imposées par les autorités étatiques. Et cela peut empêcher le paiement d'impôts pour soutenir les biens publics nécessaires à l'opération des marchés. Donc, c'est bien évident que le Bitcoin présente ses problèmes pour le droit et l'économie parce qu'il ne dépend pas ni du système juridique ni du système économique pour traiter ses propres communications. C'est un système clos. Il a atteint donc un degré d'autonomie ou de fermeture d'autres sous-systèmes sociaux qui est caractéristique de nombreuses technologies contemporaines. Et il s'agit donc d'une caractéristique de l'autopoèse de la technologie. Elle se développe de manière à répondre en grande partie à ses propres modes de fonctionnement plutôt qu'à ceux du droit ou de l'économie. Mais je ne suis pas sûr qu'on peut conclure que le droit ne peut pas réglementer, dans la dernière analyse, le Bitcoin. Cela ne signifie pas qu'une technologie donc, telle que le Bitcoin échappe au contrôle légal. C'est difficile, mais c'est possible. Les externalités négatives causées par le Bitcoin comprennent des niveaux accrus de blanchiment d'argent, de drogue en ligne traitant et l'extorsion par l'utilisation de ransomware, sans parler des dommages environnementaux causés par les ressources consacrées à l'exploitation minière de Bitcoin, Bitcoin mining. Parce que la cryptographie sous-jacente, le Bitcoin, est considérée comme safe et secure par les technologues, on a supposé que les régulateurs peuvent faire peu sur les problèmes qu'ils provoquent. Cependant, c'est la même technologie, la blockchain, qui nous aide. Les transactions utilisant le Bitcoin peuvent être tracées à l'aide du ledger distribué ou blockchain qui est utilisé pour valider tous les échanges de Bitcoin en retour à l'utilisation la plus précoce de la technologie. Ainsi, si une unité de Bitcoin est associée au produit de crime, ou si une unité de Bitcoin elle-même est volée, la trace ou souillure, teinte, qui en résulte, peut être identifiée. Et dans la pratique, les unités de Bitcoin ont tendance à être fractionnées, puis recombinées au cours de centaines de milliers de transactions, ce qui rend assez difficile d'être sûr que la souillure, le trace, est attribuée avec précision à une unité donnée. Toutefois, ce problème peut être atténué par des algorithmes informatiques qui font usage de la règle juridique aussi, selon laquelle un retrait d'un compte est réputé être fait comme les premiers dépôts effectués, en anglais « first in, first out ». Donc, cette proposition de mes collègues à Cambridge, dans la Computer Laboratory, le département des sciences informatiques, combine le droit et l'informatique pour créer une solution pour réglementer le Bitcoin. Et d'après eux, le principal obstacle à la création d'une trace chain publique n'est pas son infaisabilité technique ou juridique, mais les incitations économiques de la part des utilisateurs et des échanges de Bitcoin pour dissimuler son association avec l'activité criminelle. Lorsque des utilisations criminelles de Bitcoin, telles que son association avec le trafic de drogue sur le dark web, ont été révélées à la suite de l'action de police ou des interventions réglementaires, après ça, le prix du Bitcoin est tombé très rapidement. Les incitations privées et les résultats collectifs sont mal alignés. Mais il s'agit d'un problème économique et non technique, et aussi juridique. Au fil du temps, les régulateurs ont réagi en resserrant les contrôles sur les échanges de Bitcoin, notamment en exigeant qu'ils enregistrent et divulguent leurs activités aux autorités étatiques. Si le Bitcoin doit devenir plus largement utilisé comme moyen d'échange, il est probable que la création et le maintien des trace chains publiques deviendront une fonction des autorités de régulation telles que les banques centrales et qu'un manquement à la diligence requise en ce qui concerne la source d'une unité donnée de crypto-monnaie va soulever une présomption de fraude ou autre application criminelle. Et dans cette situation-là, les utilisateurs auraient une incitation à presser pour la reconnaissance du Bitcoin comme action, asset, ou même argent ou monnaie au sens juridique du terme, car cela permettra d'atténuer le risque de perte de titre ou une souillure a été identifiée à partir d'un commerce antérieur. Et cette reconnaissance juridique de Bitcoin faciliterait encore sa réglementation par les autorités publiques afin de réaligner les incitations privées sur le bien général. Donc je pense que même avec le Bitcoin, même avec quelque chose comme ça, c'est bien possible de trouver des solutions en utilisant et le droit et l'informatique. Pour les autres technologies, je pense que, bien sûr, il y a des questions énormes avec l'informatique et la numérisation pour le droit du travail et pour les autres sujets du droit. Mais si on considère la numérisation, c'est clair que, nonobstant des innovations récentes, dans ce sens, elle n'est rien de nouveau. La technologie du métier à tisser de Jacquard, inventée en 1804, était une première instance de la technologie numérique, on peut l'avoir, en utilisant le codage binaire, du genre maintenant normal dans les logiciels informatiques d'aujourd'hui. La portée des technologies numériques est bien sûr plus grande maintenant qu'elle ne l'était au début du 19e siècle, à la suite des avancées dans les sciences matérielles et dans les techniques d'ingénierie associées. Mais l'idée de capturer la connaissance tacite et de l'incorporer dans les systèmes automatisés processus remonte à la première révolution industrielle. Et qu'est-ce que exactement la connaissance codée dans le métier à tisser de Jacquard? C'était précisément la connaissance des techniques de production, antérieurement la propriété collective des corporations des tisserands de soie. Et cette connaissance tacite et partagée dans la communauté étendue de la corporation a été capturée, formalisée et codée par des ingénieurs et des entrepreneurs de la première révolution industrielle en France et en Angleterre. Et par cette mécanisation, l'usine a fait possible la standardisation et la production de masse des produits, et cela a fait donc possible le déplacement des corporations unifiant les entrepreneurs et les artisans par la séparation du capital et le travail et la création de la relation de subordination entre le patron et le travailleur, fréquemment nommé serviteur, dans cette époque-là. Ce processus de transformation a été accompagné par la résistance, souvent violente. Et dans la période de l'industrialisation en Angleterre, nous observons le phénomène du ludisme. Le ludisme était une réponse non seulement ou même principalement à l'introduction du métier à tisser de puissance et des machines connexes, mais à la désintégration et la destruction éventuelle de l'économie morale qui a précédé la montée de l'usine. Le ludisme, comme l'historien anglais Thompson, E.P. Thompson a dit, est apparu au point de crise dans la trajectoire de la législation paternaliste et dans l'imposition de l'économie politique de laissez-faire. Ce point de vue que de Thompson, mais il a dit le règlement, la réglementation paternaliste, dans un sens, c'était un code désuet. Ce point de vue implique peut-être trop volontiers que le cadre juridique qui sous-tend le modèle de la corporation, de la production dans les corporations, avait déjà disparu au moment des protestations des ludites, lorsque d'autres éléments de preuve suggèrent qu'il était activement miné, notamment par les tribunaux dans cette époque-là. L'un des rôles principaux des corporations était de préserver et de transmettre la connaissance du commerce. Cette connaissance tacite, acquise par l'expérience et nécessitant un apprentissage formel, a été connue sous le nom de mystère. C'est un mot fascinant. Les relations corporatives étaient hiérarchiques dans un sens professionnel, mais pas dans le sens de la subordination ou contrôle du droit de travail, du travail moderne. Comme a dit l'historien John Smale, le compagnon dans la corporation a travaillé avec, non pas pour son maître, tandis que les règles de la corporation limitant le nombre d'apprentis et fixant des normes de qualité donnaient au maître et au compagnon une indépendance protectrice. Et le mode de production coopérative a été formellement appuyé par le système juridique en Angleterre par la loi des artificiers de 1562, dont l'article 21 a fait de lui un crime pour créer, occuper, utiliser ou exercer tout engin, mystère ou occupation maintenant utilisé ou occupé dans le royaume d'Angleterre et du Pays de Galles, mais non l'Écosse. S'il n'avait pas déjà été élevé dans ses 7 ans, au moins un apprenti. Et la loi a également fixé un ratio de 3 à 1 sur le nombre d'apprentis. Et l'effet était que pour être un employeur dans un commerce réglementé, une personne devait d'abord avoir servi un apprentissage et à ce titre avoir soumis à la règle de la corporation pertinente. Donc, au moins pour les métiers, pour les commerces réglementés, la loi a exclu les formes de production dans lesquelles l'employeur était un capitaliste marchand. Dans les jugements des tribunaux, on peut voir l'érosion de la loi avant l'abolition de la loi dans les années au commencement du 19e siècle. Même dans 1689, Hobbes contre Young, la loi sur les artificiers a reçu une contestation importante dans un cas portant sur une prétendue violation de l'article 21 par un marchand qui avait employé des compagnons à linge pour fabriquer des marchandises destinées à l'exportation. L'avocat du procureur a soutenu que c'est lui qui ne peut pas utiliser un mystère lui-même est interdit d'employer d'autres hommes dans ce métier. Car si cela devait être permis, alors les soins qui ont été pris pour maintenir les mystères en érigeant des corporations et des fraternités signifieraient peu. Et le tribunal est d'accord avec ça, caractérisant le marchand comme le véritable employeur. L'exercice du métier par des compagnons et des maîtres ouvriers ou un surveillant pour la location n'est pas un exercice de celui-ci par eux, mais par celui-ci qui les emploie. Il leur fournissait des matériaux et des outils et leur payait des salaires. Par la loi, il est estimé le commerçant qui est de courir la perte et le danger, la perte du risque, le risque de la perte et le danger. Toute la direction devait être pour son profit et les ouvriers ne doivent avoir aucun avantage, mais le salaire. C'est le capitalisme, mais dans un sens, ce n'est pas permis dans les métiers réglementés. En tenant compte du contexte législatif très différent d'aujourd'hui, dans un sens, c'est exactement la même chose aujourd'hui qui est considérée dans le jugement Aslam contre Uber par le tribunal du travail en Angleterre, en Londres, en 2016. C'est la même question, qui est l'employeur? Dans un autre contexte, mais la même question, est-ce que Uber emploie les chauffeurs ou non? Je rentrerai à ça dans une minute. Déjà, dans Hobbes contre Young, il est possible de voir la germe de l'idée, néanmoins, qui porterait atteinte à la corporation. Selon le juge dissident dans Hobbes contre Young, aucun encouragement n'a jamais été donné aux poursuites en vertu de la présente loi. Et il serait pour le bien commun si la loi a été abrogée, puisque aucune peine plus grande ne peut être au vendeur que d'exposer des marchandises à la vente mal forgée, car par de telles moyens, il ne vendra jamais plus. C'est l'idée du marché, bien sûr, et la solution marchande, et la solution même d'Adam Smith, mais dans le siècle antérieur, annoncé par un juge. Et dans les décennies qui ont suivi, les tribunaux, encouragés par des décisions, ont effectivement diminué le champ d'application de la loi sur les artificiers, statuant qu'elle ne portait pas sur un cas où un commerçant a pris en tant que partenaire avec un maître qualifié dans le commerce pertinent, et excluant de son champ d'application les métiers réputés avoir émergé après l'adoption de la loi. Et deux décisions de chaque côté du tournant du 19e siècle ont finalement détruit toute cohérence à l'article 21 comme mesure de protection de la corporation. Ce sont les deux décisions du premier juge anglais, le Lord Chief Justice de l'époque, et nous pourrions en déduire d'une importance conséquente pour l'interprétation et l'application concrète de la loi. En 1792, une décision de Kenyon, Smith contre Company of Armors, a déterminé qu'un gestionnaire non apprenti d'une fonderie de fer pouvait continuer à cette capacité au motif que, bien qu'il ne sache pas comment fabriquer le produit par son propre travail personnel, il savait comment mener l'entreprise. Dans un sens, c'est la naissance de la gestion. Ainsi que tout maître à Londres, ayant pendant 7 ans à mener l'ensemble des travaux extensifs, a reçu toutes les commandes et donné des directions aux ouvriers. Il peut commander, donc c'est légal pour lui travailler dans ce métier. Et en 1811, Ellenborough, le Chief Justice, qui a choisi de siéger aux Assises de Kingston, peut-être à la lumière de l'importance de la question, tribunal de la première instance, mais le Lord Chief Justice, le premier juge du pays, a statué contre la condamnation du propriétaire d'une usine de textile pour des motifs qui représentaient un peu plus que les inconvénients qu'autrement résultat à la nouvelle classe capitaliste, les moulins de valeur à Wakefield, Leeds, etc., qui sont la propriété des premières familles du royaume, okay, seraient responsables d'informations pour les procureurs ou seraient tenus de servir des apprentissages réguliers en tant que meunier si le défendeur devait être considéré comme au sens à l'intérieur de la loi. Kent contre Dormy. Et le changement du sens de la loi des artificiers reflétait, dans son contexte juridique spécifique, une transformation plus large des relations sociales de la production, l'indépendance du travail artisanal au sein de la corporation ayant cédé la place aux relations de contrôle direct et subordonné, et le travail, dans un sens plus générique, a été soumis à la logique de l'accumulation de capital. Et concrètement, c'est ce que les ludites résistent lorsqu'ils contestaient la perte de la protection des corporations et la conséquence inévitable, à savoir, selon les termes d'Edward Thompson, la réduction de l'artisanat au statut de serviteur, un salarié embauché ou sujetti aux ordres et à la discipline du maître. Le refus des magistrats de faire respecter les taux de salaire coutumiers pour le cadre de commerce de chicotage, qui était le déclencheur de l'insurrection des ludites en 1811, a eu lieu à peu près même au même moment que le juge Ellenborough était occupé à rendre l'article 21 de la loi une lettre morte. Donc, je pense que la violence du ludisme était une réponse à l'incapacité des tribunaux de défendre les intérêts économiques que la législation avait semblé protéger. Et une leçon tirée de l'histoire pour nous est que lorsque les tribunaux ne protègent que les droits des riches et des puissants, comme Ellenborough a fait, la violence et le désordre sont susceptibles de suivre. Mais en même temps, il y a une autre histoire. Le ludisme n'a pas réussi à empêcher la montée de l'usine. Mais il avait un héritage. Comme Thompson lui-même a dit, les ludites étaient quelques-uns des dernières corporations et en même temps quelques-uns des premiers à lancer les agitations pour la réforme du droit du travail. Et il y a donc des deux directions pour le ludisme. Le ludisme a posé une économie politique et une moralité alternative à celle du laissez-faire. Et sur des sites qui avaient occupé les anciennes corporations, de nouvelles formes de réglementation ont émergé, y compris la négociation collective entre les syndicats et les patrons, la détermination conjointe des salaires et des conditions pour les associations patronales et syndicales. Et la négociation collective a accepté le contrat de service ou de travail comme base pour la constitution juridique et sociale des relations de travail, mais a commencé, oui, à construire autour de lui les protections sociales qui sont venues plus tard être incorporées dans le droit du travail moderne. Et les éléments de formation de ce système sont à trouver dans les mêmes régions du pays, les mêmes régions du Nord et des Midlands de l'Angleterre qui ont connu les soulèvements ludites et dans certains des mêmes métiers, y compris le tricot, le cadre, une génération ou plus tard. Donc, le ludisme, c'est une réponse, a été une réponse à ce que nous pourrions aujourd'hui appeler une stratégie de normalisation, où les acteurs du marché et les autres bénéficiaires de technologies s'engagent dans une action concrète pour que les lois existantes soient désappliquées et que de nouvelles soient promulguées en faveur de leurs intérêts. C'est la même maintenant avec Uber. Les ressources consacrées par Uber et d'autres entreprises plateformes au lobbying et au contentieux en faveur d'un environnement favorable aux entreprises ont bien cartographié dans un certain nombre d'études. Et dans le contexte américain, par exemple, Uber a réussi à obtenir des lois dans un certain nombre d'États qui établissent une présomption réfutable qu'un chauffeur d'Uber est un entrepreneur indépendant. Et même au niveau de l'Union européenne, il y a aussi un grand succès pour le lobbying des entreprises. En 2016, une communication publiée par la Commission européenne intitulée « Agenda européen pour l'économie collaborative ». Ce document suggérait, entre autres, que les tentatives des États membres de l'Union européenne de fixer des normes réglementaires pour l'économie de plateforme entrent dans le champ d'application du droit du marché antérieur et pourraient, en principe, relever de la notion de restriction de la concurrence ou distorsion du marché et, au sens de la logique, exceptionnellement controversée des décisions de Viking et Laval. Et c'est pourquoi il y a le grand bateau de Viking ou Viking ici. Mais plus récemment, il y a eu un pushback dans un sens contre Uber même dans l'Union européenne. Par exemple, en 2017, dans l'affaire des chauffeurs de taxi de Barcelone, la Cour de justice a décidé qu'Uber pouvait faire l'objet d'une réglementation en tant qu'entreprise du transport. Et aussi, en 2017, une décision de London Transport a été de révoquer la licence d'Uber sous réserve d'un appel en attendant qu'Uber continue d'opérer. Mais la justification pour la révocation de la licence d'Uber était l'importance de la sécurité des voyageurs. Donc, il y a bien sûr des problèmes énormes avec la numérisation, mais il y a aussi la possibilité d'une pushback contre les grandes entreprises de plateforme. Et je pense que c'est toujours possible pour que le droit du travail réglemente, réussisse à réglementer les nouvelles technologies comme dans le passé. Alors, pour conclure, je voudrais dire quelque chose sur la question peut-être la plus intéressante qui, pour nous maintenant, c'est la question de l'apprentissage automatique, parce que l'apprentissage automatique peut-être va affecter même le droit. Grâce à la numérisation, la connaissance qui était auparavant tacite et conventionnelle devient codée et calculable, mais maintenant, la codification de la connaissance étend à celle des avocats et juristes, même des juges. Et le projet d'application de l'apprentissage automatique au droit a le but, dans un sens, d'une quelque chose assez extraordinaire, une singularité juridique. Et qu'est-ce que c'est ? Dans une singularité juridique, le droit opère dans un état perpétuel d'équilibre entre les faits et les normes. C'est un écho de la notion de la singularité technologique qui signifie le point dit inévitable à un moment donné à l'avenir où la machine intelligence dépasse celle des gens, des êtres humains. Et selon le point de vue de chacun, néanmoins, la notion de la singularité juridique peut être interprétée de différentes manières. Pour le physicien Max Tegmark, étant donné que le processus juridique peut être perçu de façon abstraite comme un calcul, l'entrée des informations sur les preuves et les lois et la sortie d'une décision, certains chercheurs rêvent d'automatiser entièrement avec RoboJuge, système d'intelligence artificielle qui applique inlassablement les mêmes normes juridiques élevées pour tout jugement sans succomber à des erreurs humaines telles que le biais, la fatigue ou l'absence des dernières connaissances. C'est la singularité juridique, mais on peut néanmoins se rappeler les mots de Hannah Arendt en considérant les origines du totalitarisme, la première étape essentielle sur la route de la domination totale est de tuer la personne morale. Qu'est-ce que c'est donc exactement l'apprentissage automatique? L'apprentissage automatique utilise des fonctions mathématiques pour effectuer diverses tâches d'analyse et de classification. Et dans les approches d'apprentissage profond, les données sont organisées en concepts qui sont exprimés hiérarchiquement avec des concepts plus complexes en cours de construction à partir de ceux plus simples. La classification des données et concepts est obtenue par l'utilisation des POAD, dans le sens mathématique, dont les valeurs sont ajustées automatiquement au fil du temps lorsque le système reçoit de nouvelles informations, de nouvelles entrées. Et grâce à ces opérations récursives et bien sûr autoréférentielles, un système ajuste son mode de fonctionnement interne ou apprend de sorte qu'en principe, les erreurs sont corrigées et graduellement purgées du système. C'est l'apprentissage profond. Et le système juridique, dans un sens, utilisent peut-être les mêmes choses. Le système juridique utilise également des concepts pour stocker et conserver des informations. Les concepts juridiques sont ordonnés hiérarchiquement avec des catégories d'ordre supérieur, la personne, informant le contenu de sous-catégorie, le salarié, opérant à des niveaux inférieurs d'abstraction. La correction d'erreurs à un niveau systémique est assurée par un certain nombre de mécanismes dont le contentieux dirigé par le prestataire, l'examen en appel des jugements des corps inférieurs, etc., et les reprises législatives de règles irréalisables ou dysfonctionnelles sont très importantes. À un niveau structurel, donc, les similitudes, oui, entre l'apprentissage automatique et le raisonnement juridique sont plus que superficielles. Et certaines des objections à l'utilisation de l'apprentissage automatique dans un contexte juridique sont donc moins fondamentales qu'elles ne le semblent d'abord. Par exemple, l'implication de l'ordonnancement hiérarchique des concepts juridiques est que même une clause générale, très largement encadrée dans le droit, quelque raisonnabilité ou bonne foi, peut être comprise comme opérant en symbiose avec des concepts de niveau inférieur, et en fin de compte avec ces particuliers de litige individuel. Et l'application de règles juridiques à un ensemble de faits sociaux est en ce sens un processus, oui, algorithmique, dépendant de l'interaction entre les concepts et les règles qui sont exprimés à différents niveaux de la généralité, non pas contrairement en principe à la superposition neuronale et attribution de poids relatif à de nouvelles entrées informationnelles qui caractérisent les réseaux neuronaux artificiels utilisés dans l'apprentissage profond. Donc, le projet d'automatisation de la loi du droit peut être essayé, mais devrait-il? C'est un renouveau dans la dernière analyse du schéma de Leibniz pour capturer la totalité du monde matériel et social par le codage binaire. Et toutefois, pour que l'apprentissage automatique réplique le raisonnement juridique, il faut traduire les catégories linguistiques utilisées par le droit en fonction mathématique. Ce n'est pas simple, même avec des progrès dans le traitement de langage naturel qui permettent de convertir le texte en code informatique avec toujours plus de sophistication. En effet, les catégories des langues naturelles, précisément en raison de leur imprécision et de leur débilité, sont supérieures à un certain nombre de fonctions mathématiques. Et non seulement sont-ils mieux à stocker et à représenter des informations complexes sur le monde social, ils sont plus adaptables à la lumière de nouvelles informations. Donc, c'est une question de la traduction, traduire de l'informatique ou de mathématiques vers le droit. Ce n'est pas comme la traduction entre hiragana et katakana, ce n'est pas la même chose. L'apprentissage automatique, pour toutes ses avances, reste à l'envers et sujet à l'erreur grâce à des effets de verrouillage. Il a également relativement peu d'options pour la correction d'erreurs par rapport à la multiplicité de techniques disponibles au discours juridique. Alors que des progrès sont faits pour assurer une plus grande transparence algorithmique, la superposition complexe et l'opacité des réseaux neuronaux artificiels demeurent, du moins pour l'instant, plus opaques que celles du droit. Et dans quelle mesure exactement l'application d'une règle juridique à un ensemble de faits sociaux ressemble-t-elle à un processus algorithmique? La réalité sociale est émergente par des comportements collectifs, des conventions et des normes sociales, mais formellement structurée par des institutions telles que le système juridique qui aident les individus à coordonner leurs actions, leurs comportements. La connaissance juridique donc a un lien complexe avec cette réalité sociale externe, car elle la reflète au même temps qu'elle la constitue. On peut suggérer donc que la flexibilité du raisonnement juridique est plus évidente et très évidente précisément au point des limites du codage binaire. Même si on peut réduire le raisonnement juridique à une série des décisions binaires, contrat ou non, salarié ou non, intégration ou non, contrôle ou non, etc., on arrivera à un point où les capacités des concepts juridiques sont épuisées. Mais à ce point-là, le juge peut et doit trouver une solution. Et comme nous avons vu, comme j'ai essayé de dire dans le premier cours, ceci est l'espace précis dans lequel les juges créatifs peuvent moduler la doctrine du précédent pour faire évoluer le droit. Et donc, dans son noyau dur, donc, le raisonnement juridique est réflexif, non linéaire, et aussi non égodique. Donc, c'est-à-dire, le chemin de droit n'est pas prévisible en avance, il n'est que clair avec le bénéfice du recul. Et c'est précisément ici que nous trouvons les limites du projet de la programmation du droit. Par contre, avec le droit, l'apprentissage automatique reste rétrograde, inflexible et opaque. Et le mot profond dans l'apprentissage profond désigne une propriété technique, c'est-à-dire le nombre de couches cachées ou convolutionnelles dans une fonction mathématique. Le mot n'implique pas de profondeur conceptuelle ou de sophistication. Donc, je pense que le projet de la singularité juridique suppose que l'hypothèse leibnizienne, selon laquelle il y a un sens constant à chaque règle de droit qui peut formellement identifier et mathématiquement formaliser. Mais le droit reste un projet, essentiellement en cours, avec des arguments, des justifications, se développant en conflit et en coévolution avec le contexte social dans lequel elles sont incorporées. Et dans le cas où il n'existe pas du précédent ou de règles juridiques, ou lorsqu'aucune base de données n'a été précompilée, des différents pénaux peuvent parfois nécessiter des innovations en matière de raisonnement judiciaire pour déterminer ce qui le droit devrait être lorsque les faits d'une affaire donnée n'ont pas d'analogue. Et sans la capacité d'absorber et de traiter les informations externes au système juridique, telles que diverses considérations dans l'économie et la politique, le calcul réduirait le raisonnement juridique au simple traitement de l'information et négligerait la connexion essentielle entre le système juridique et sa coévolution avec la société. Donc, pour conclure, avancer comme une réponse à l'incomplétude et la contingence du droit, le projet pour la singularité juridique est également une proposition pour l'élimination du raisonnement juridique comme base pour le règlement des différends et pour l'attribution des pouvoirs, des droits et des responsabilités. Et en tant que tel, il risque de miner l'une des principales institutions d'un ordre démocratique libéral. Et pour éviter un tel résultat, il faudra réfléchir à l'identification et à l'établissement de limites pour l'utilisation de l'apprentissage automatique et d'autres approches axées sur les données dans les aspects fondamentaux du système juridique. Le succès de ces mesures dépendra, en fin de compte, de la capacité du droit de maintenir l'autonomie de ses opérations face au changement technologique global, bien sûr, un résultat qui est loin d'être garanti. Merci.